Alors, j'allais vous poser une question toute simple. Qui a tué Rodolfo?
Ah,
nous aussi, on se pose cette question.
On n'a pas de réponse pour cette question. Et je pense qu'on ne l'aura pas. Parce que c'est... On va dire que la situation continue. Elle ne s'est pas arrêtée. Donc, c'est difficile de pointer, finalement, qui est la personne qui tue.
Il y a beaucoup de gens qui se demandent qui a tué qui.
Oui, encore aujourd'hui.
En fait... Finalement, au fond de nous, on le sait très bien.
Et vous osez le dire ou non?
Ben, en fait, c'est une histoire où il n'y a pas eu une guerre, où il y a eu un truc super injuste, dont, où les militaires ils ont pris le pouvoir et ils ont vraiment tué les idées. Donc finalement, il n'y a pas de morts parce qu'il n'y a pas de corps, il y a des disparus. Donc on considère que c'est les idées qui sont mortes. Donc, et on essaye
corps,
de...
Oui.
Voilà, il n'y a pas de corps, encore.
Donc, difficile de dire qu'il y a un mort, donc difficile de dire que...
qui a tué.
Quand vous dites qu'il y a beaucoup d'idées qui ont disparu, vous aviez fait l'inventaire auparavant de ce qui existait comme idée et on
c'est
peut
énorme.
Faire un bilan.
C'est ouais. Infini. En fait, c'est...
une génération qui a disparu quand même. Dans le cas de l'Argentine, et après, on peut quand même nommer des autres pays qui ont vécu ou qui vivent aujourd'hui des situations pareilles, et des pays qui vont le vivre.
Ouais, pour moi, c'est tellement simple et tellement presque évident, c'est l'idée de la justice, finalement. C'est tout con, peut-être, de le dire, mais finalement, c'est ça. C'est les gens qui voulaient vraiment une justice pour son pays, pour les gens... Voilà, c'est ça ce qu'on a, on a tué. Et donc, on a tué aussi la vie, on a tué plein de trucs avec ça.
Le courage.
Donc, on essaye de revivre ça maintenant, je pense.
Alors, la pièce chorégraphique que vous présentez, est assez contrastée. Les personnages s'opposent fortement. On sent une tension permanente, ouais. Pratiquement. Et dès le début, le fait de... du pleur, des larmes, oui. Ça traverse aussi la pièce.
Oui. Oui, en fait, c'est arriver aux limites du dramatisme et même traverser le dramatisme, ça devient presque un comique, vraiment. Parce que c'est tellement, tellement, tellement dramatique qu'on ne pouvait pas prendre ces sujets dans une forme de documentaire, en fait. Donc, il fallait vraiment le transformer.
Déjà quelque chose qu'on puisse se relationner plus, quelque chose qui a plus de rapport avec notre réalité aujourd'hui,
ouais.
Sachant que la télé a une telle influence, donc aujourd'hui les choses dramatiques deviennent, les niveaux ont monté à un tel point,
ouais.
qu'on touche, aujourd'hui on touche l'ordre de ridicule, de grotesque. Et donc on a décidé, en parlant de ces larmes qui ont été pleurées par les maires de la place de Mai, par tout le monde, on s'est dit, mais comment on fait ça? Alors il faut y aller à fond, il faut toucher le grotesque, ouais. Dans cette image de larmes. Et le fait que les larmes ont couleur, c'est aussi une façon de encore le mettre dans un grotesque télé, je sais pas, des soap opera américaines,
ouais.
de
Mais vraiment, on a construit ça à partir de ce qu'on a imaginé comme douleur d'une mère qui oui. perd un enfant comme ça, tellement tragiquement. Parce que, encore une fois, ne pas trouver le corps de son enfant, c'est le plus... Donc, on s'est basé sur ça et vraiment, ça arrive super, super vite, le drame.
Ouais. Et après, bon, il y avait cette histoire, comme on disait, de vraiment cet échange de rôles continu. Qui nous semblait important déjà pour nous comme interprètes à traverser, ouais. pendant toute la pièce, et aussi important pour peut-être partager avec le public cette sensation qu'on a de on sent quand même qu'on est toujours dans une fine ligne où on peut devenir
la victime,
mais on peut devenir aussi le bourreau, on dit,
ouais,
le bourreau.
C'est un peu ce qu'on ressent dans la pièce, c'est que le bourreau et la victime sont finalement très liés dans
oui,
votre histoire.
Tout à fait. tout à fait. Et il change d'un endroit à l'autre.
À la fin, ils ont besoin de l'un de l'autre.
Et les rôles sont parfois alternés. Et l'un prend le rôle de...
Pas dans l'écriture, mais oui, disons, oui dans l'écriture, pas nécessairement. C'est-à-dire, moi, je fais toujours mon rôle, elle fait toujours son rôle à elle. Mais dans ces jeux de rôle, oui, c'est compliqué d'expliquer.
Et vous dites dans la vie, dans la vraie histoire, en fait, je pense que ça dépend du regard. Parce qu'il y a des gens qui continuent encore à dire que c'était une guerre, c'est ce qui s'est passé, si on parle directement du sujet. Il y a des gens qui continuent à dire que c'est une guerre, et ça c'est faux complètement. Parce que s'il y a une guerre, il y a deux groupes qui luttent au même niveau. Donc là, c'était pas une guerre, mais les gens qui étaient de l'autre côté, ils se sentent les victimes. Donc c'est ça ce qu'on a pris avec Mailing. On a dit, bon, c'est vrai que des deux côtés, il y a des gens qui se sentent victimes de ça. Maintenant, il y a des militaires qui sont touchés et tout, et ils se sentent victimes de l'histoire. Voilà. Donc,
on s'est dit, bon, qui est la victime, voilà. qui est alors le héros.
Et comment on vit maintenant avec tout ce passé lourd, et peut-être avec des choses qui peuvent durer encore?
Le problème, c'est qu'il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que ces gens-là, ces militaires-là, ils sont encore dans la rue. Donc, vivre avec ça, c'est très dur, parce qu'on vit avec l'ennemi. Donc ça, c'est très dur. Et après, que ça continue à exister. Ça fait un an que, même pas, il y a Lopez qui était porté disparu. C'était un témoin.
Un témoin clé. Pour un prisonnier, un général très important, qui a donc témoigné, et le lendemain, il était disparu. Donc, c'est-à-dire que c'est une histoire qui n'est pas finie, en fait.
Elle n'est pas finie. Et c'est très actuelle, en plus.
Alors, tout à l'heure, presque en souriant, vous disiez, et ça peut être aussi ailleurs, qu'est-ce qui fait qu'un pays dérape dans l'horreur?
Waouh.
À partir de quel moment on le sent? À partir de quel moment on peut dire, attention, il y a un danger qui va se...
C'est très clair. À partir du moment où on n'est plus libre d'exprimer ses idées.
Ouais.
Au moment où la censure doucement arrive. Le problème, c'est qu'on ne la sent pas. On ne sent pas ça arriver. Ça arrive très doucement. Et au moment qu'on réalise la censure est là, c'est trop tard. C'est vraiment trop tard. Et il y a quand même pas mal de pays aujourd'hui, surtout en Latinoamérique, etc., où ça arrive depuis un bon moment. Et là, c'est trop tard.
En Argentine, c'était assez violent. L'histoire, c'était assez... Vraiment, ils sont débarqués et c'était violemment. Tu n'avais plus droit à rien. Il fallait vraiment rentrer dans l'école avec du gel aux cheveux, par exemple.
En quelle année?
Et c'était entre 76 et 82. Et ça fait pas longtemps. Et vraiment, on s'est habitué, c'est vrai qu'on s'habitue à ça. Et au moment donné, même il y a des gens qui disent, mais c'est pas mal parce que la ville, elle est très propre et on est bien, on est en sécurité. Et à côté, il y a des choses horribles qui se passent. Et là, dans la totalité de la pièce, on voit ça. Et c'est dommage parce qu'il y a une partie où elle dit un texte qui est très léger, mais trop léger. Elle parle de comment être belle et moi, je suis avec une cagoule comme ça. Je suis en train de boucher, de danser, mais c'est très dramatique. Et ça, ce qui se passait en fait tout le temps là-bas.
Le symbole, la symbolique de la cagoule, ça veut dire que par moment, on comprend rien de ce qui nous arrive.
En fait, c'est le symbole de la cagoule, c'est très clair et c'est très simple parce qu'il s'était. Ils savaient une cagoule, les prisonniers. Donc, ils pouvaient même pas avoir les copains qui étaient à côté. Donc, c'est vraiment le fait de ne plus voir. Mais c'est même pas un symbole. C'est presque...
Non, la raison aussi de l'utiliser dans le cas de la pièce, et là, on a quand même pas mal limité l'utilisation, parce que sinon, ça devient un symbole. Et bon, oui, il est. Ouais. Cagoule... ce qu'elle est. Dans le cas de la pièce, c'est vrai que dans l'utilisation, il y a deux moments. Donc, un moment que vous n'avez pas vu, mais qui est très important parce qu'il joue avec justement la contradiction de la légèreté d'une situation et de dramatisme de l'autre, ce qui arrivait assez souvent, c'est-à-dire il y avait un jeu de football et on ne savait pas que dans le bâtiment à côté, il y avait des gens qui étaient en train d'être torturés. Donc c'était un peu jouer avec cette symbologie, si vous voulez, sans être... rapport à ça. Et dans le cas des oignons, bon, c'est pareil, c'est le stand de tir. C'est-à-dire, finalement, seulement si on n'est pas conscient, on se laisse placer dans cette situation-là, mais on le fait en suivant. Donc, oui, je pense que c'est le symbole des, finalement, soit de ne plus vouloir voir, soit de ne plus pouvoir voir autour.
Alors, pour votre compagnie, qui est basée où ?
À Paris.
C'est plus facile de travailler à Paris.
Non, pas du tout. On ne sait pas comment c'est travailler ici, mais à Paris, c'est pas.
Non, qu'en Argentine.
C'est différent. C'est différent parce que, écoutez, c'est clair qu'en Europe, les conditions économiques sont meilleures et qu'il y a des systèmes qui, bon, ils peuvent être discutables, mais qui sont là pour soutenir la culture, ce qui n'a pas. Dans l'Argentine ou des pays latino-américains. Mais il y a une effervescence quand même artistique et créative là-bas. Donc les choses se font quand même s'il n'y a pas les moyens. Et des fois, même la manque des moyens fait que les gens deviennent tellement créatifs. On était là il n'y a pas longtemps, ça fait longtemps que je ne voyageais pas par là. Et je suis allée il y a 7 mois et la quantité de spectacles mais magnifiques que j'ai vus, c'est incroyable. Donc c'est difficile de savoir quelle est la meilleure façon, mais c'est vraiment différent. C'est une autre façon de faire parce que c'est une autre façon de vivre.
La chorégraphie est donc riche en Argentine. Parce que nous, on connaît bien le tango.
Oui.
Quelques pièces d'Amérique du Sud, d'une manière générale, et brésiliennes aussi, qui sont intéressantes. Mais l'Argentine, peut-être moins.
Ici, en France, oui, et c'est dommage, hein, parce que franchement, la dernière fois que j'étais là, j'ai vu des compagnies qui font des travaux mais incroyables et très différents en plus, assez, très variés. C'est vrai que l'Argentine a des relations beaucoup plus avec les États-Unis. Ils voyagent beaucoup là-bas et moins ici. Mais je pense que ça ne va pas tarder à se créer ce lien, j'espère en tout cas.
Il y a une liberté de créer maintenant ?
Oui, je pense que c'est un peu peut-être comme l'Espagne aussi, c'est le fait une fois qu'on s'est débarrassé, si bien on ne se débarrasse jamais complètement parce que ça reste collé à la peau, mais aujourd'hui, oui, il n'y a pas de censure.
Et en plus,
le fait, c'est vrai que, comme elle parlait la mailing, le fait qu'il n'y a pas d'argent, ça fait que la liberté soit énorme. Parce qu'en fait, on n'est pas
obligé
et obligé à rien. Donc, on fait ce qu'on veut, mais vraiment.
Mais quand on redémarre une liberté, par quoi on recommence ?
Ah. Pour exagérer, je pense.
Mais bien sûr.
C'est sûr qu'on va aux extrêmes au début.
Ouais.
Et après, on se rend compte que les extrêmes, ce n'est pas non plus les extrêmes, c'est rencontre. Donc, il ne faut pas y aller aux extrêmes non plus. Mais je pense qu'il faut passer par là. Hein? C'est naturel, c'est humain.
Oui, mais c'est vrai que ça se voit en Argentine. Que...
Extrêmes, et après, on s'est dit, là, ça ressemble trop. Mais, ouais, je ne sais pas. C'est simplement très différent. Très différent. C'est une autre façon de vivre, créer. Et je pense que, comme tout, ça sera bien trouver le juste milieu.
Oui.
Trouver un peu cet esprit de création et liberté et de créer sans trop penser dans les moyens, tout ça. Et avoir une soutien quand même pour la culture. Et si on pouvait avoir les deux, ça serait génial.
Le fait de venir ici dans un festival comme les Repérages de Danse à Lille, ça vous permet de comprendre, enfin de voir des choses très diverses. Bon, à Paris aussi, hein, il y a plein de choses intéressantes.
On finit pour voir beaucoup plus quand on est dans le cadre d'un festival. C'est bien, cette fois-ci, on ne peut pas rester. Mais Paris a une telle offre et la vie est tellement... va à une vitesse que finalement on trouve que quand on participe à des festivals on finit pour voir beaucoup plus le fait que tout est concentré, qu'on est dans cet esprit de partage, etc. Donc c'est vrai que ça te donne l'opportunité de voir, de rentrer dans cet esprit, je vais aller voir de la danse ou de les spectacles.
Donc là, vous avez l'occasion de présenter une partie du spectacle. Est-ce qu'on pourra un jour le voir dans sa totalité?
Bah écoutez, bien sûr, c'est notre plus cher souhait.
Au mois de juin, on va participer au festival Onze Bouches de Paris. C'est un petit festival. Bon, je vais pas dire un petit festival. C'est un festival qui, ça fait 3 ans qu'il s'est fait. Et donc, on fait partie de ce festival. Et on aura 3 dates en juin dans une petite salle qui est très intime, donc qui va être très spéciale pour la pièce, parce que bon, ça va être un peu cet esprit-là. Et donc, le premier, 2 et 3 juin. À Paris, dans le 11e, au local des Belles-Villes.
16 rue de l'Orion.
On s'est fait la pub complète. Voilà. 16 rue de l'Orion. Métro Belleville.
Merci.
Merci beaucoup. À vous.